Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans le podcast Tout sur Tout Histoire. Je suis Clotilde Dagneau. Tout sur Tout Histoire, c'est le podcast énergie pour celles et ceux qui n'écoutaient pas au fond de la classe d'histoire. Vous pourrez y découvrir des biographies de personnages célèbres, des récits d'événements marquants, des histoires insolites. Laissez-vous surprendre par l'histoire dont on ne vous a jamais parlé à l'école. Au moment où nous publions cet épisode, c'est bientôt Halloween. C'est pourquoi nous avons choisi un sujet de circonstance. La montée en popularité de la planche Ouija en Amérique du Nord. Il ne s'agit pas de n'importe quelle planche de divination. En fait, Ouija, c'est une appellation déposée qui appartient à une entreprise. Et derrière ce nom se cache une histoire un peu compliquée. Dans cet épisode rocambolesque, nous allons évoquer le spiritisme, évidemment, mais surtout, vous allez découvrir un véritable complot dans le milieu des affaires, entre trahison, litiges judiciaires et querelles familiales. Et vous verrez, nous parlerons même de psychologie. C'est pourquoi, même si nous limitons notre histoire aux États-Unis et à la planche de divination créée par Ouija, il y a tellement de choses à dire que cet épisode sera coupé en deux parties. Dans cette première partie, nous allons voir comment les planches de divination ont commencé à apparaître dans la presse en Amérique du Nord et comment ce phénomène a fini par intéresser certains hommes d'affaires. Mais surtout comment, en fin de compte, c'est un véritable outsider qui a pris le contrôle de toute cette industrie. Dans la deuxième partie, nous allons nous intéresser aux fabricants des planches Ouija, à l'entrée des Ouija dans la culture populaire et à quelques sombres affaires de justice. Et vous verrez, certains éléments macabres nous feront entrer dans une ambiance digne d'Halloween. Enfin, nous discuterons de ce qui se passe réellement sur le plan psychologique quand on utilise une planche Ouija et qu'on est convaincu que quelque chose ou que quelqu'un d'autre la contrôle. Aussi loin que l'on remonte dans le temps, on trouve des dispositifs conçus pour aider les vivants à communiquer avec les morts. Et lors de la montée du spiritisme aux États-Unis, on a assisté à une explosion de la création de ces objets, aussi bien en quantité qu'en variété. Ces dispositifs avaient chacun leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Vers la fin du 19e siècle, une méthode de communication multidimensionnelle s'est distinguée des autres, à tel point qu'elle a été adoptée à la fois par ceux qui croyaient fermement aux esprits et les autres. Et cette méthode est toujours aussi populaire aujourd'hui. Il s'agit bien sûr des planches de divination, également appelées planches Ouija. Donc, pour clarifier un peu, au cas où vous ne sauriez pas de quoi nous parlons, une planche de divination ou une planche Ouija est une planche qui est imprimée ou peinte, puis vernie. Il existe de nombreuses façons de les fabriquer. Elles sont généralement rectangulaires ou rondes et comportent des lettres, des chiffres et quelques mots. Il y a aussi sur la planche une petite planchette que l'on appelle goutte. Une goutte a généralement la forme d'un cœur inversé. Elle comporte une sorte d'ouverture qui entoure des lettres et des mots lorsqu'elle se déplace sur la planche, et c'est elle qui permet de communiquer avec les esprits. Avant le développement de la Ouija, la goutte avait généralement cette même forme, mais on lui attachait un crayon. Ainsi, la goutte, et donc le crayon, traçait des messages sur une feuille de papier et non sur une planche imprimée. Les messages étaient donc généralement plus proches du gribouillage et le résultat toujours sujet à interprétation. Cette version plus ancienne de la goutte avait été inventée en France dans les années 1850 et était utilisée en tant qu'outil de divination. En ce qui concerne la Ouija, il faut déposer doucement ses doigts sur la planche, puis poser les questions que l'on souhaite directement aux esprits environnants. Après ça, on attend. Jusqu'à ce que la goutte se déplace sur la Ouija vers les différents symboles et épelle ainsi une réponse. Alors, d'où viennent ces réponses? Eh bien, c'est là toute la question. En fait, c'est le cœur d'un véritable débat qui a émergé dès les débuts de la Ouija. Au printemps 1886, un article de presse de l'Associated Press, d'abord publié dans le New York Tribune, puis repris par tous les journaux du pays, mentionne que des Américains pratiquent le spiritisme grâce à, je cite, « une planche de divination ». le journaliste est surpris de rencontrer un homme venu de l'ouest des États-Unis de passage à New York avec une planche Ouija. Cet homme lui explique qu'il s'intéresse beaucoup à ce nouveau mode de communication devenu très populaire dans l'Ohio. Il raconte, je cite, « Je connais des communautés entières qui sont folles de cette planche de divination. Je n'ai jamais su si elle avait un nom en particulier, mais j'ai découvert des choses remarquables sur son fonctionnement, des choses qui semblent dépasser toute compréhension humaine ou explication rationnelle. » L'article continue en partageant l'interview de cet homme anonyme. Et la description de la planche va vous sembler très familière. Cette description de 1886 esquisse à peu près ce que vous obtiendriez si vous achetiez une version de la Ouija dans le commerce aujourd'hui. Selon lui, elle mesure environ 45 cm de large sur 50 de long et comprend l'alphabet, les chiffres de 0 à 9, les options oui et non et les mots bonsoir et bonne nuit. L'article fournit également une description assez complète de l'utilisation de la planche et se lit presque comme un manuel de jeu. L'homme décrit qu'il faut prendre la planche sur ses genoux, puis que chacun des participants mette ses mains sur la tablette, que nous appelons aujourd'hui la goutte. Ensuite, il faut poser une question. Selon ce compte-rendu, je cite, « Assez rapidement, vous pensez que la personne en face de vous pousse la tablette. Et de son côté, elle pense que vous faites de même. » L'homme raconte ensuite que la communication commence généralement par l'utilisation des mots « oui » ou « non », puis évolue vers l'épellation de réponses plus détaillées. Dans cette description, la seule véritable différence que nous pouvons constater par rapport à une planche Ouija est que les utilisateurs regardent ce qui est désigné par le bord le plus large de la goutte. Cela crée de la confusion, et les gens doivent souvent reformuler leurs questions parce que, bien sûr, ce bord large peut toucher plusieurs lettres en même temps. L'article indique quand même « Certaines conversations remarquables ont eu lieu, au point que certaines personnes sont devenues superstitieuses. » En exposant tous les secrets de la planche, le journaliste met également les lecteurs en garde sur ces dangers. L'article mentionne un homme, nommé Jack, qui était tellement perturbé par l'obsession de sa famille pour la Ouija qu'il a fini par brûler la planche. L'histoire raconte même que lorsque sa femme l'a remplacée et a demandé ce qui était arrivé à la première, la nouvelle planche a épelé, Jack l'a brûlée. L'article évoque même la possibilité qu'une personne ne touchant pas la planchette et posant une question dans sa tête, voit quand même une réponse lui être apportée par la goutte. L'article explique encore que dans de nombreuses villes de l'Ohio, cet objet est devenu extrêmement populaire. Il aurait même remplacé les jeux de cartes. Mais certaines personnes abordent cette pratique avec des idées préconçues. L'homme de l'interview dit simplement « On se retrouve avec un grand nombre de réponses absurdes, mais les utilisateurs n'y prêtent pas vraiment attention. Et si les réponses sont pertinentes, tous les commentent avec beaucoup de superstition. » Cet article présente tellement bien la planche, son utilisation, son utilité et son côté effrayant que s'il n'était pas sorti plusieurs années avant sa commercialisation, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'une sorte de campagne publicitaire du 19e siècle, dans le style du projet Blair Witch. Il y a énormément d'histoires différentes sur l'invention de la planche Ouija. Même dans le petit groupe qui a créé la première entreprise dédiée au Ouija, les versions diffèrent. Le temps a passé, bien sûr, mais ces changements sont aussi liés à des litiges juridiques. En effet, chacun des partis a voulu s'assurer que l'histoire qui circulait allait bien dans son sens. En tout cas, on peut supposer que l'article dont nous parlions précédemment a été lu par un certain Charles Kennard, qui a compris l'intérêt croissant qu'il y avait pour les planches de divination. Kennard est né dans le Delaware, en 1857. Important homme d'affaires, il a fait fortune en développant un engrais à base de farine d'os, riche en phosphate. Mais très vite, Kennard et son partenaire Henry Clay Chase connaissent des difficultés dans leur entreprise d'engrais. C'est une industrie très concurrentielle. La sécheresse et toute une série d'autres problèmes affectent leur production. Et les deux associés finissent par perdre leur usine. Kennard déménage alors à Baltimore, dans le Maryland, pour tenter à nouveau sa chance dans le commerce d'engrais. cela ne fonctionne pas. Et Kennard prend la décision de se tourner vers une carrière dans l'immobilier. Gardons cependant en tête l'adresse de son usine d'engrais. C'est là qu'il va créer la société mère de la Ouija. En 1890, Kennard s'associe avec 4 personnes pour créer la Kennard Novelty Company. Aux côtés de Kennard, il y a le colonel Washington Bowie, Harry Wells Rusk, John F. Green et William H. Emoyne. Mettons tout de suite les choses au clair. Pas un de ces hommes n'est médium. Ce sont simplement des hommes d'affaires qui parient sur un produit. Il y a une autre personne impliquée dans la Kennard Novelty Company, mais qui n'est pas associée. E.C. Reich. Bien avant la création de l'entreprise, Reich gagne sa vie en construisant des armoires et des cercueils. Il travaille juste à côté de Charles Kennard, à Chestertown, dans le Maryland. Kennard lui décrit ses planches de divination dont il a entendu parler et lui demande d'en fabriquer. C'est ainsi que quelques années plus tard, Reich prétendra qu'il est l'inventeur de la planche Ouija et que Kennard la lui a volée pour lancer son entreprise. Et effectivement, Kennard vend les planches à Chestertown pendant quelques années, juste après la publication de l'article de 1886. Mais il a d'autres ambitions. Une des autres figures importantes de l'histoire de la Ouija est un homme, Elijah Bond. Après avoir déménagé de Chestertown à Baltimore, Kennard rencontre Bond, qui est avocat. C'est lui qui dépose le premier brevet de la planche Ouija. La belle-sœur de Bond joue un rôle essentiel dans l'obtention de ce brevet et dans le choix du nom de la planche. Vous avez probablement lu, ou peut-être vous êtes-vous dit que le mot « Ouija » était une combinaison des mots français et allemand pour « oui » et « ya ». Et pourtant, si l'on en croit la Kennard Novelty, l'origine du nom est tout autre. La planche se serait nommée elle-même avec l'aide d'une médium. Et cette médium n'est autre qu'Helen Peters, la belle-sœur d'Elijah Bond. Les associés racontent qu'ils ont organisé une sorte de séance menée par Helen et ont demandé à la planche comment elle voulait être appelée. Et c'est elle qui aurait épelé O-U-I-J-A. Lorsqu'on lui a demandé la signification du mot, la planche a dit au groupe assemblé que cela signifie « bonne chance ». Pourtant, dans certains échanges, on retrouve la trace d'une version de l'histoire bien moins mystique. Le nom pourrait être expliqué par un simple problème de vue. Helen Peters porte un médaillon avec une image de femme, sur laquelle est écrit un mot. Un article du Smithsonian, datant de 2013, écrit par Linda Rodriguez McCroy, suggère que cette image pourrait être le portrait d'une femme connue sous le nom de Ouida, le pseudonyme de la romancière anglaise Maria Louise Ray, un nom pas si loin du mot Ouija. Qu'Helen Peters ait contacté des esprits pour nommer la planche ou non, nous ne le saurons certainement jamais. Mais nous avons une certitude. Helen Peters était bien présente au bureau des brevets des États-Unis pour une démonstration de la Ouija. C'est une demande de brevet très inhabituelle. En effet, il faut pour déposer ce brevet prouver qu'une simple planche imprimée est capable de transmettre des messages venant du monde des esprits. Selon la légende familiale, lorsqu'Elijah Bond et Helen Peters se rendent au bureau des brevets, l'employé qui les reçoit n'a qu'une seule crainte : devenir la risée du bureau. Donc, pour prouver que la planche fonctionne, il demande à Bond et Peters de l'utiliser pour épeler son prénom. Le test est passé avec succès. L'employé, un peu secoué, délivre alors à Bond le brevet le 10 février 1891. Il faut ici préciser que Elijah Bond est un avocat spécialisé en droit des brevets et connaît donc probablement tous les employés de ce bureau. Il est donc très possible qu'il ait fait jouer ses relations pour obtenir ce brevet. Et si on lit le brevet tel qu'il a été délivré, on peut remarquer qu'il ne mentionne pas vraiment la communication avec les esprits. Il parle de réponses données par la planche, mais n'explique pas comment cela se produit. Une fois le brevet obtenu, Bond le cède à Charles Kennard et à William H. Moyne, qui le vendent, eux, à la Kennard Novelty Company. Et c'est cette dernière qui demande une marque déposée pour le nom Ouija. Bien que la société porte son nom, Kennard en est seulement le directeur général et non le président. C'est Harry Wells Rusk, plus expérimenté dans ce domaine, qui en assure la présidence. Le dernier associé, le colonel Washington Bowie, en est le trésorier et détient une participation majoritaire dans la société. C'est lui qui a fourni le capital pour la création de la société. Penchons-nous un peu sur ce dernier. Le colonel Washington Bowie naît dans une famille aisée. Il bénéficie d'une bonne éducation et devient une personnalité de premier plan dans le domaine des douanes, à tel point qu'il est nommé inspecteur du port de Baltimore par le président William McKinley. Au moment où Bowie et ses associés fondent la Kennard Novelty Company, ils ne savent pas encore que l'un des points du contrat va devenir très important. Celui-ci stipule « Nous certifions en outre que ladite société sera dirigée par 5 directeurs et que Harry Wells Rusk, Charles W. Kennard, William H. A. Moyne, Washington Bowie et John F. Green seront des directeurs qui géreront les affaires de ladite société la première année. » Nous y reviendrons dans un instant. C'est en 1891 que les premières publicités pour les planches Ouija commencent à apparaître dans les journaux. Cette date n'est pas surprenante, car à cette époque, le spiritisme connaît une forte expansion aux États-Unis. Évidemment, la publicité surfe sur cette vague. Par exemple, une annonce affiche « Ouija, la planche porte-bonheur égyptienne, la planche magique ». La Ouija est sans aucun doute l'œuvre la plus remarquable et la plus mystérieuse du XIXe siècle. On dit que les séances de divination sont inestimables, puisqu'elles répondent à des questions sur le passé, le présent et l'avenir avec une précision remarquable. On dit aussi, je cite, « La Ouija offre un divertissement infaillible pour tout un chacun. Pour les scientifiques ou les penseurs, ces mouvements mystérieux invitent aux recherches et aux investigations les plus minutieuses. » La planche incarne le lien entre le connu et l'inconnu, le matériel et l'immatériel. Ainsi, bien que la planche Ouija effraie certaines personnes, elle est plutôt considérée comme un passe-temps inoffensif. Pour preuve, dans l'édition du Denton Journal, datant du 31 janvier 1891, un des articles mentionne la planche avec d'autres jeux complètement innocents. On y lit « Jeudi, la Ouija ». Les cartes et un délicieux repas ont animé la soirée mondaine de Monsieur et Madame Gadeken. La planche avait déjà été mentionnée une semaine plus tôt, cette fois dans le Catoctin Clarion de Mechanic Town, dans le Maryland, qui publiait une chronique intitulée « La folie Ouija ». Dans ce bref article, l'auteur la désignait comme le dernier objet à la mode et précisait clairement que seules les personnes superstitieuses pouvaient la prendre au sérieux. Cet article poursuivait en disant, je cite, « C'est finalement une preuve convaincante d'une tendance sous-jacente à la superstition, plus ou moins capable de contrôler les croyances de tout être humain », et mentionnait qu'on avait vu deux planches Ouija dans la ville. Et que bien que des témoignages élogieux de ses adeptes affluaient, l'auteur, lui, restait sceptique. L'article concluait en disant « Dès que nous en aurons l'occasion, nous leur poserons des questions. Et si leurs réponses nous surprennent, nous le dirons honnêtement ». Mais les origines de ces deux derniers articles sont douteuses. En effet, ils semblent avoir été publiés avant même que la Kennard Novelty n'obtienne son brevet. Alors on peut supposer que nos 5 associés, tous hommes d'affaires, avaient fait fabriquer des planches Ouija et les avaient données à des gens de la haute société, qui, eux, avaient le réseau nécessaire pour un bouche-à-oreille efficace. L'image de marque de la Ouija est également un cas très intéressant puisqu'elle se situe au croisement du commerce et du spiritisme. La planche est commercialisée à la fois comme un jouet et comme un objet qui pourrait connecter les gens au monde des esprits. L'entreprise brasse large pour attirer les clients. Résultat, les personnes qui croient au spiritisme veulent leur Ouija. Les personnes qui y voient un drôle de jeu la veulent également. Et évidemment les enfants aussi. Certains médiums commencent même à les utiliser. Mais d'autres n'apprécient pas qu'un tel outil soit mis à la disposition du grand public, car cela empiète sur leur territoire. C'est après une crise sociale que les ventes finissent par vraiment prendre de l'ampleur. En fait, c'est assez courant. En période de crise, de guerre ou d'incertitude économique, le nombre de soi-disant médiums augmente toujours. En 1892, la demande dépasse déjà la production et une deuxième usine doit être ouverte. Après cela, d'autres usines ouvrent à leur tour à New York, Chicago et Londres, en plus des deux qui se trouvent déjà à Baltimore. Mais ce n'est pas le seul changement que connaît la Kennard Novelty Company en 1892. Cette année marque un tournant pour la direction, la structure et même le nom de l'entreprise. Bowie et Rusk la réorganisent entièrement. Et dans ce processus, parviennent à évincer les trois autres fondateurs. Même Charles Kennard n'en fait plus partie, lui qui lui a donné son nom. Comme on pouvait s'y attendre, l'entreprise ne resta pas la Kennard Novelty très longtemps. Bowie et Rusk changent son nom pour la Ouija Novelty Company et la transfèrent du bureau que Kennard avait établi vers un nouvel emplacement. Souvenez-vous, depuis le début de l'entreprise, Bowie possède la majorité des parts. On pourrait presque voir cela comme un plan pour mettre la main sur l'entreprise. On comprend mieux la clause mentionnée un peu plus tôt à la fondation de l'entreprise. Nous la dirigerons ensemble pendant un an. Malgré tout cela, le changement le plus significatif concerne la nouvelle tête des opérations, William Fuld. William Fuld fait partie de l'équipe fondatrice de la Kennard Novelty Company. Embauché en tant qu'employé, il en devient rapidement actionnaire. C'est un ami de Bowie et Rusk. Lui et Bowie sont particulièrement proches, et cette amitié offre de nombreuses opportunités à Fuld. William Fuld est né en 1870, et il est réputé pour son sens de l'imagination et sa créativité. Dès son plus jeune âge, il invente des jeux pour divertir ses 9 frères et sœurs. Et il semble donc assez logique que, devenu adulte, Fuld trouve un emploi dans une entreprise qui fabrique ce que beaucoup considèrent comme un jeu. Selon un rapport, Fuld commence à travailler pour l'entreprise en tant que contremaître d'atelier. D'autres encore en parlent comme d'un vernisseur. D'autres rapports encore combinent tout cela en disant qu'il fait des choses comme le vernissage, mais qu'il supervise aussi d'autres personnes dans l'atelier. Quoi qu'il en soit, passer soudainement directeur général est un énorme bond en avant pour la carrière de Fuld. Sous sa direction, la Ouija Novelty Company commence à déposer davantage de demandes de brevets et apporte des améliorations à la planche. Fuld dépose également plusieurs demandes de brevets et de marques, toutes dans le but de protéger les intérêts juridiques de la société. 5 ans après la nomination de Fuld à la tête de l'entreprise, les choses ont de nouveau beaucoup changé. Jusqu'à ce moment-là, le colonel Washington Bowie et Harrywell Rusk étaient toujours impliqués dans les opérations quotidiennes de l'entreprise. À cette époque, ils sont tous les deux prêts à prendre leur retraite, mais ne veulent pas renoncer aux revenus juteux qu'ils tirent de la Ouija. Ainsi, la Ouija Novelty Company liquide les actifs de Bowie et Rusk proportionnellement à leur participation dans la société. Bowie récupère donc 83% des capitaux et le reste pour Rusk. Fuld ouvre alors le capital de la planche Ouija à des actionnaires approuvés par la Ouija Novelty Company. Et l'une des entreprises auxquelles il accorde une licence se nomme Isaac Fuld & Brothers. En réalité, sous le nom de société Isaac Fuld & Brothers, se cachent William Fuld et son frère Isaac Fuld. Leur licence est acceptée par la Ouija Novelty Company en juillet 1898, pour une durée de 3 ans. Pendant cette période, William et Isaac fabriquent des planches Ouija, mais créent aussi de nouveaux objets. Et lorsque la durée de la licence prend fin 3 ans plus tard, William prend une décision qui détruira sa relation avec son frère. Isaac Fuld & Brothers n'a plus la possibilité de continuer à fabriquer des planches Ouija, mais la Ouija Novelty Company conclut un nouvel accord de licence, directement avec William Fuld. Isaac est exclu de l'affaire. Ici, la situation est un peu confuse. On ne sait pas si William et Isaac ont eu un désaccord qui a conduit à cette décision ou si cela a été une trahison qui a fait exploser leur relation. Nous aborderons la suite dans la deuxième partie de cet épisode entre procès, culture populaire et psychologie. Voilà, c'était la première partie de l'histoire de la planche Ouija. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout sur Tout Histoire. Tout sur Tout Histoire est un podcast Énergie et iHeart Podcast. Cet épisode a été écrit par Tracy Wilson et Oli Frey pour le podcast américain Stuff You Missed in History Class et produit en collaboration avec l'Acme Productions. Retrouvez tous les épisodes sur energie.fr, sur l'application Énergie ou sur votre application de podcast préférée. Et si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Si vous avez aimé, c'est vraiment la meilleure manière de soutenir ce podcast. À bientôt !